invitée et merci pour cette belle séance de ce matin qui fait beaucoup réfléchir et d'ailleurs qui me fait penser à dire tout d'emblée que c'est bien les chercheurs que nous sommes, mais c'est vrai qu'aussi on trouve ce qu'on cherche. Et on peut dire que ce n'est pas seulement des sources nouvelles, je dirais que c'est des questions qu'on pose, et on pose des questions qui sont bien de notre époque. Et donc il y a ce que moi j'appellerais des modes historiographiques, il y a des questions qui sont posées, des termes qui sont proposés à différents moments, donc par exemple le terme métissage dont on a eu un petit échange tout à l'heure, il y a des moments où il y a des termes, des concepts qui deviennent des questionnements et qui deviennent à la mode et puis pour différentes raisons sont ensuite parfois souvent critiqués et puis ou qui passent leur moment de gloire. Et donc je reviendrai aussi, donc en fait je pense que c'est nos questions qui parfois créent des nouvelles sources, nous poussent à regarder des anciennes sources nouvellement ou de chercher des sources nouvelles. Je dirais aussi, donc, par rapport spécifiquement au tournant de la mobilité, dont je vais parler aussi. Donc, je pense que là aussi, il y a des questions de savoir comment et pourquoi, à ce moment-ci, on est tellement focalisé sur des questions de mobilité. J'étais ce matin donc très heureuse de voir ce que j'essaie de dire aux étudiants. Je me rappelle au début des discussions avec des sociologues, et quand ils parlaient de l'histoire, c'était souvent des années 1950. Donc les historiens ont dit oui, mais en fait, il y a quand même encore toute la période des migrations de masse du 19e siècle sur lequel beaucoup d'entre nous, les historiens, travaillaient. Et puis maintenant, on voit bien, et j'essaie aussi de le dire aux étudiants, qu'il y a l'histoire moderne qui a été révisée à l'aune de la mobilité, et maintenant je peux ajouter l'époque Moyen-Âge, l'époque romaine, l'époque grecque, je suis très contente. Mais je pense que c'est important puisqu'il y a vraiment peut-être une pédagogie à faire par rapport aux mobilités anciennes, pour qu'aujourd'hui, par rapport aux discussions très d'actualité, qui sont tout à fait de l'actualité, qu'on puisse quand même regarder vers le passé pour essayer de comprendre aussi le présent. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le présent? On voit bien, les frontières sont de retour de manière, mais vraiment hyper visible. On les voit devant nos yeux, on voit les queues des gens, on voit les gens sur les bateaux fragiles en mer qui s'effondrent. Et surtout, on voit des murs qui s'érigent, qui, après la chute du mur de Berlin, on ne pourrait pas imaginer qu'on reviendrait à des murs, que ce soit entre Israël et les Palestiniens, ou sur la frontière mexicain-américain, ou depuis peu en Hongrie. Or, il y a peu encore le terme du transnationalisme, sur lequel je vais plutôt organiser mes remarques, était érigé un peu en modèle de mobilité à la fin du XXe siècle finissant, si on peut dire, lié à la globalisation, avec beaucoup de discours autour de la globalisation, autour de la flexibilité, et donc de la mobilité. Donc ce que je voudrais voir ou réfléchir ici, c'est sur justement ce contraste entre les frontières renaissantes de manière très très visible et ce discours sur le transnationalisme, et où il me semble qu'il y a à la fois une question historique, aussi bien qu'historiographique, donc à la fois on peut se tourner vers l'histoire, mais aussi on doit voir que l'historiographie ou la façon qu'on étudie l'histoire est liée souvent aux questions présentes. Donc peut-être d'abord un petit retour en arrière par rapport à quelques termes. Donc des termes utilisés pour décrire en fait l'histoire. Et la distinction qui est faite dernièrement, et avec aussi beaucoup de contestations, mais la distinction qui est faite entre réfugiés et migrants, par exemple. Et je laisserai à Alexis le terme exil pour tout à l'heure. Mais si on prend juste les catégories réfugiés et migrants, la distinction est souvent faite entre en fait une question politique et des questions économiques. Et on le sait, et je pense que beaucoup d'entre nous, des chercheurs, ont montré ou se sont interrogés sur les problèmes avec cette distinction. Mais je dirais que les problèmes sont à plusieurs niveaux. On pourrait dire un problème temporel, c'est-à-dire comment penser ces termes dans leur passé historique. La catégorie de réfugiés est, dont on fait référence, effectivement la définition de la Convention de Genève de 1951, donc de fuir la persécution. Mais le problème, c'est que historiquement, il y avait des réfugiés avant 1951, et on a des beaux travaux sur les réfugiés d'avant. Alors, je suis la mauvaise élève parce que je n'ai pas fait une belle bibliographie comme des intervenantes ce matin, et je n'ai pas non plus une image. J'aurais pu, à l'ancienne, écrire sur un tableau, mais il n'y en a pas. Dépassée par la technologie, je peux simplement vous encourager à regarder les travaux de Michael Marus sur, je crois que c'était traduit en français, ça s'appelle Les Exclus, The Refugees, je crois, en anglais. Aristide Zolberg aussi avait beaucoup travaillé sur les réfugiés d'avant, comme des plus récents. Mais on n'a qu'à penser au milieu du 19e siècle, les réfugiés politiques des révolutions de 1848, les réfugiés économiques de la famine en Irlande, mais aussi à la fin du 19e siècle, les Juifs qui fuyaient des pogroms, mais aussi des conditions difficiles autrement en Russie, les Arméniens après le génocide, etc., etc. Donc on a, à l'intérieur de l'Europe, ainsi que l'axe transatlantique, que je connais, je dois avouer, mieux que la Méditerranée, donc si je donne des exemples, c'est plus l'axe que j'étudie et que je vis. Mais donc, il y a eu quand même des réfugiés avant 1951. La question est la terminologie juridique et l'usage de ces termes aujourd'hui. Donc, problème temporel, je dirais, de définition. Mais aussi, du fait que sur le long terme, donc un autre aspect temporel du problème de ces mots, c'est que les réfugiés deviennent des migrants, voire des immigrants. Donc, de faire cette distinction oublie finalement le fait que les conditions de départ, aussi dramatiques qu'ils soient et qui sont réelles, vont sur le long terme se transformer en problèmes, les mêmes types de problèmes qu'ont d'autres immigrés, c'est-à-dire comment trouver du travail, du logement et de s'installer dans un autre pays. Il y a, outre les problèmes de temporalité dans cette soi-disant distinction entre réfugiés et migrants, est aussi un problème au fond aussi de définition et les rapports entre le politique et l'économique. Il est très difficile, et les chercheurs sur l'immigration l'ont dit depuis longtemps, il est difficile de faire une barrière étanche entre ce qui est politique et ce qui est économique dans les mouvements de masse. On dit souvent les migrants votent avec leurs pieds, donc c'est un acte aussi politique de quitter un lieu où on n'est pas bien, même si les raisons ne sont pas spécifiquement de fuir devant une guerre ou une persécution. Mais aussi, les problèmes politiques ne sont pas seulement politiques et peuvent être également économiques. Et le cas des Juifs dans l'Empire tsariste était un mélange à la fois une vraie fuite à cause des pogroms et une fuite devant une situation économique qui se dégradait par ce qu'on appelle des pogroms secs ou une législation socio-économique qui restreignait leurs possibilités économiques de vivre. C'était finalement une oppression à la fois socio-économique et religieuse, basée pas sur la religion en tant que telle, mais sur le groupe défini. D'ailleurs, c'était le terme utilisé à l'époque, c'était plutôt la nationalité juive. Mais c'est pour dire simplement, donner un exemple de ce qui est à la fois politique et économique, ou religieuse. Des définitions finalement de raisons pour lesquelles les gens partent. Les migrations forcées peuvent être aussi bien pour une question de survie matériel que pour une raison de situation de guerre physique ou de questions politiques. Un troisième problème de cette distinction entre réfugiés et migrants est l'usage politique des termes. Et le meilleur exemple, comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce que les distinctions sont faites et utilisées parfois par les politiques pour limiter finalement les mouvements. L'exemple le plus évident était celui aux États-Unis dans les années, tous les débuts des années 1980, où la distinction était faite entre Cubains et Haïtiens. Dans un contexte de guerre froide, les Cubains qui quittaient l'île de Castro était accueillie aux bras ouverts comme anticommuniste et comme donc on donnait la définition ou le terme de réfugié politique, en même temps que ceux qui quittaient le régime de Duvalier, qui était mieux, qui avaient d'autres problèmes, étaient définis comme des réfugiés économiques et donc pour la plupart n'étaient pas aussi bien accueillis, loin de ça, à la même époque. Historiquement parlant, donc, on peut soutenir que certes, il y a des aspects, et je ne nie absolument pas, des aspects dramatiques des flux à des moments précis, et les aspects plus politiques que d'autres qui déterminent certains flux, mais que finalement, et le plus souvent, il me semble que l'économique et le politique se conjuguent, et à travers la longue durée, tous ceux qui restent ailleurs sont confrontés, ils deviennent des migrants, des immigrants, et qui doivent trouver du travail, trouver un logement, trouver une vie meilleure s'ils restent. À un moment donné, j'avais même fait un petit papier sur Lénine comme les réfugiés révolutionnaires russes comme immigrants. Il fallait quand même qu'ils trouvent du travail, qu'ils trouvent du logement à Paris. C'était difficile. Ils étaient mal chauffés. Ils allaient à la Bibliothèque nationale parce que c'était un lieu mieux chauffé que où ils habitaient. Mais que c'était pour dire que même l'archétype de révolutionnaire politique qui était parti pour des raisons purement idéologique, pouvaient aussi avoir des problèmes de vie quotidienne comme n'importe qui, immigrant. Ils ont dû faire lui-même et d'autres dans son entourage, ils ont dû faire des travaux d'immigrés, de traduction, ils enseignaient un peu le russe, mais ils avaient ils étaient plongeurs dans les restaurants, enfin, ils avaient des mêmes problèmes en fait de vie quotidienne. Donc c'est ça, finalement, aussi, ça dépend quel niveau de l'expérience des gens qui bougent, à quel niveau de cette expérience on se situe. Et au niveau de la vie quotidienne, c'est très dur qu'on soit réfugié politique, entre guillemets, ou réfugié économique. J'aimerais passer maintenant, quand même, à des considérations plutôt historiographiques. Et c'est là où je rejoins quelques-uns des éléments évoqués ce matin. Comment est-ce que le champ de l'histoire de l'immigration a évolué depuis une trentaine d'années et comment un concept puissant, qui est ce concept de transnationalisme, très séduisant, a accaparé les esprits, les recherches, les titres de communication pour des congrès et des colloques, donc le transnationalisme, comment c'est devenu une façon de comprendre les migrations, de les comprendre non seulement aujourd'hui mais aussi historiquement, mais aussi comment il y a des limites à cette interprétation ou à ce regard qui a incité beaucoup de travaux très riches. Et mais je pense que là aussi, donc c'est un bon exemple en fait d'une mode historiographique, et j'aimerais juste qu'on réfléchisse un peu sur l'éclosion comme ça d'une mode historiographique. Qu'est-ce que ça veut dire et comment il faut en fait contextualiser les questions qu'on pose. C'est pas pour dire qu'on a tort de penser le transnational ou la mobilité pour les périodes anciennes comme pour aujourd'hui, mais je pense qu'on devrait être au moins plus réflexif sur la façon dont on est situé aujourd'hui dans un moment où ces questions surgissent, et donc ce n'est pas inintéressant de réfléchir là-dessus. Une chose qui est claire, il y a un très bon article en anglais dans le Journal of Modern History de Michael Lang, L-A-N-G. L'article doit dater des années 80-90. Sur la globalisation et l'évolution du terme, de son usage dans les sciences sociales à partir des années 1980. Ce qui montre clairement, c'est comment c'était l'époque de Reagan aux États-Unis, c'était une époque néolibérale, montant, où la globalisation est devenue un mot-clé pour la compréhension de la société actuelle. Et en même temps, pour les historiens économiques dont il est langue, c'était devenu aussi une clé pour essayer de comprendre ce qui était nouveau à la fin du XXe siècle. Et c'était donc quelque chose qui était très mis en avant comme quelque chose de nouveau. Et donc, où du coup, aussi les historiens ont commencé à dire, oui, mais il y a eu des périodes de globalisation ancienne qu'on peut facilement étudier, les historiens économiques qui débattent sur la fin du 19e. D'ailleurs, on pourrait étudier les moments de globalisation comparés en prenant que des tournants de siècle, parce que les discours en 1900, comme en l'an 2000, étaient sur la nouveauté des voyageurs, des voyages, des transports, de mouvements, de mobilité. On entend la même chose en 1900, finalement, on peut trouver facilement, qu'en l'an 2000. Pourquoi les années 80? Pourquoi cette nouveauté perçue? Différentes raisons sont données. Une économie néolibérale montante, la fin de l'Union soviétique et l'idée que c'était la fin de l'histoire, ce qui était pour une historienne une phrase incompréhensible, mais l'idée qu'on passait vraiment d'un régime fondamentalement conflictuel, etc., à un autre où les frontières n'existaient plus ou n'étaient plus tellement importantes. Et donc le transnationalisme va suivre de cette fin de la guerre froide. Et j'ai assisté chez les historiens à des discussions sur la fin de l'État-nation, d'autant plus que l'État-nation pour les historiens du contemporain, c'est-à-dire du 19e, 20e siècle, voire même du 18e, était quelque chose qui définissait même le champ et continue à définir le champ pour les historiens, chaque État-nation avec son histoire bien définie. Donc, dans les années 1991-92, il y a eu beaucoup de discussions sur la fin de l'État-nation. On pensait entendre Lénine, d'ailleurs. Franchement, c'est la première fois dans très longtemps que je le cite deux fois dans une conférence au 21e siècle. Vous m'excusez. Mais the withering of the state, enfin la disparition de l'État, semblait une possibilité dans les années 90. Certaines étaient sceptiques, mais néanmoins il y a eu des discussions sur la fin de l'État-nation et sur est-ce que donc les frontières allaient de toute façon être bientôt dépassées. Ce transnationalisme donc est devenu une espèce de façon de penser cette fin des frontières ou une diminution de l'importance des frontières qui était envisagée. En même temps, au début des années 90, à la fois des anthropologues et aussi des historiens qui travaillent sur les États-Unis, mais de manière séparée, je ne reviens pas là-dessus, ont lancé le terme de transnationalisme. Et ils l'ont lancé pour surtout les anthropologues de l'immigration, donc Nina Glick-Schiller et compagnie, elle travaille avec deux autres anthropologues, ont proposé de manière très programmatique l'importance du transnational pour les études des migrations. Et c'était proposé comme quelque chose de nouveau, c'est toujours comme ça qu'on lance un concept, quelque chose de nouveau par rapport à l'étude, à la fois à l'histoire et à l'étude des migrations, surtout dans le contexte américain. Vers la même période, un peu plus tardivement, il y a le dictionnaire du transnationalisme édité par Pierre-Yves Saunier et Akira Irie qui est publié. Mais surtout, c'est effectivement ces travaux de Glick-Schiller et d'autres aux États-Unis, des anthropologues d'abord, qui ont lancé le terme. Alors, ce qui me semble, c'est que pour tout terme de cette sorte, il faut penser son historicité. Donc, comme je viens de dire, pour la globalisation, voir le contexte. On peut aussi voir pour le transnationalisme, peut-être, et la globalisation d'ailleurs, une réaction épistémologique au structuralisme. On est aussi dans une période où le post-structuralisme a le vent en poupe pour dire que les structures, qui étaient des structures à la fois mentales des chercheurs, mais aussi des descriptions du Fordisme et compagnie, étaient dépassées, que maintenant on était dans un monde beaucoup plus fluide, beaucoup plus sans frontières en ce qui concerne l'immigration, mais où les mots-clés étaient flexibilité, mobilité, globalisation ou mondialisation, et qui véhicule et continue à véhiculer ce que a été dit ce matin par Thomas Fresner, des valeurs positives maintenant pour la mobilité. Donc cette mobilité prend une valeur tout à fait positive, Et surtout par rapport aux structures, à un structuralisme qui était trop contraignant et qui aurait encadré les choses de manière trop, y compris les frontières, de manière trop vive avant. Alors, on va dire, mais peut-être je le dis tout de suite, il me semble que peut-être on est à un tournant et que des discussions sur la fin de l'État-nation, après le 11 septembre, ont déjà commencé à se modérer le discours que l'État-nation allait disparaître. Parce que déjà, le renforcement des frontières à la suite du 11 septembre de 2001 ont été renforcés. Et cette année, on l'a vu devant nos yeux de manière encore plus vivant, même à l'intérieur de l'Europe, où les États-nations se font leurs voies séparées. Pour ce qui concerne l'histoire des migrations, on peut voir aussi la tendance et donc ce qui était, donc je reviens à cette période et à l'intérêt encore aujourd'hui pour le transnationalisme, dans les termes utilisés. Et donc les termes qui avaient été au début de l'histoire, en fait dans le champ de l'histoire de l'immigration, c'était bien l'immigration. Je pense en France comme aux États-Unis, les immigrés, les immigrants, ou les émigrés, les émigrants, les termes indiquaient en tous les cas une directionnalité de l'arrivée, parce que beaucoup on a travaillé au début sur l'immigration, les émigrés ou les émigrants plutôt sont ceux qui partent, les immigrés c'est ceux qui arrivent, mais maintenant on parle beaucoup plus des migrants. Quand j'ai commencé de faire des travaux sur les migrations et j'avais regardé le mot migrant dans des catalogues, enfin des fichiers, des mots-clés, d'autrefois, migrants aux États-Unis, en fait, c'était des migrants à l'intérieur des États-Unis qui traversaient pendant les années 30 de l'Est en l'Ouest à cause de la grande crise. Le mot migrant, c'était migrant worker, c'était un travailleur migrant à l'intérieur d'un espace politique. Aujourd'hui, on a écarté le préfixe immigré ou immigré pour concentrer sur migré qui renforce la notion de mobilité. Et de mobilité dans les différents sens. Et ce qui est la force du concept de transnationalisme, c'est aussi de dire que les immigrés ou les migrants, en fait, restent en contact avec leur pays d'origine, ils font des allers-retours, enfin, c'est ça un peu la base de ce contact, ces circulations, ces va-et-vient, une sorte de bidirectionnalité qui est important dans le concept même de transnationalisme. Alors, il y a débat, transnationalisme, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est ancien? Les historiens ont tout de suite après l'énonciation. Le transnationalisme, jusqu'à présent, et malgré certaines critiques, et je pense certaines questions qu'on peut poser tous, est devenu un concept important pour souligner les concepts, les contacts entre pays d'origine et pays d'arrivée. J'ai dit moi-même avec un collègue sociologue, Roger Waldinger, un ouvrage sur les contacts justement et qui sont de longue durée et de longue date. Ce n'est pas juste depuis la fin du XXe siècle qu'il y a des contacts transnationaux ou que les immigrés restent en contact avec leur pays d'origine. Donc on fait un livre sur un siècle de transnationalisme pour montrer la longue durée du phénomène, que ce n'est pas juste de la fin du XXe siècle, mais aussi pour montrer combien il y a des facteurs tout à fait contingents pour expliquer à quel moment on peut être en contact ou non. Il y a des périodes pour des raisons politiques, aussi bien qu'économiques ou sociologiques, que ces contacts aussi ne sont pas de tout moment, mais il faut aussi historiciser. En tous les cas, le transnationalisme a été présenté comme, moi je dirais, pour schématiser, le troisième stade, et toujours ultime, parce que chaque stade historiographique est annoncé comme le meilleur de tout ce qui précède, que la stade ultime de la compréhension des migrations, qui aurait été au début une histoire d'immigration vraiment centrée sur les pays d'immigration, sur les questions d'assimilation, ensuite d'intégration. Mais bon, grosso modo, sociologues et puis historiens ont travaillé sur l'assimilation à partir des pays d'immigration, jusqu'aux années 1960 par là. Ensuite, la période suivante, c'était très clair aux États-Unis, un peu moins, mais aussi en France, c'était la période plus peut-être multiculturelle, où on à noter que quand même, les immigrants, ils gardaient un peu, quand même, sinon beaucoup, de leur propre tradition culturelle, communauté, etc. Et on faisait beaucoup d'états sur les qualités ethniques et la façon dont les gens gardaient, ils voulaient garder leur... d'avoir une espèce de maintenance culturelle. Si dans le premier cas, l'immigration était plutôt étudiée sous une forme de structuralisme, on peut le dire, l'ethnicité, c'était des groupes qui avaient un peu leur propre action à l'intérieur de ces structures, qui pouvaient avoir même un impact sur les structures d'insertion. Mais après l'assimilation, après l'ethnicité, voilà l'ère des études transnationales. Ici, le transnational, et ça je reviens tout à fait à ce qu'a dit Thomas ce matin, c'est de mettre plus l'accent aussi sur les individus, sur la possibilité d'un individu de suivre ses choix rationnels, de pouvoir rester en contact avec son passé comme avec son présent. Ce va-et-vient est mis en avant. Et puis, vous voir comment ça a aussi aidé à mieux prendre en compte les pays d'émigration, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais voilà où il y a une forme de dépassement, et dépassement du national. Glickschiller, avec le sociologue Andreas Wimmer, ont bien écrit un article qui est souvent cité sur les problèmes du nationalisme méthodologique et le transnationalisme. Pour Glickschiller et d'autres, et avec raison, est une façon de dépasser cette obsession nationale dans l'étude des migrations et au-delà. Peut-être finalement, on peut quand même souligner des contradictions. Non seulement, donc, il faut contextualiser. Je pense qu'on a. Mais on ne peut pas non plus entièrement dépasser. On pose des questions de notre époque. La mobilité étant sur la. Dans le discours général, c'est normal qu'on cherche et on trouve des mobilités passées qu'on n'avait pas regardées avant. Et ça, c'est tout à fait utile. En même temps, je pense qu'il faut aussi contextualiser cela et comprendre aussi quelques contradictions. Pour le transnationalisme, il y a une contradiction qui est assez évidente, même dans la littérature sur l'immigration. D'une part, ça peut mener à une espèce de supra-ethnicité. C'est-à-dire, les gens, ils sont dans un pays où ils ont immigré, ils restent en contact maintenant beaucoup plus réguliers par Skype, par d'autres méthodes, les ordinateurs de toutes sortes, d'être en contact de manière plus quotidienne, s'ils veulent, avec leur famille dans les pays d'origine. Ce qui peut garder donc une certaine ethnicité ou un ancrage dans leur communauté d'origine, peut-être encore plus vif qu'avant. On pourrait dire aussi il y avait des lettres avant, les gens ils recréaient des communautés d'origine dans les pays d'immigration, mais en tous les cas, une des possibilités de ce transnationalisme, c'est une espèce d'ethnicité encore renforcée. L'autre possibilité qui est souvent mise en avant, c'était le contraire. C'est le transnationalisme comme le citoyen du monde qui peut traverser les frontières maintenant qui sont très flexibles, qui encore une fois cette année devient vraiment plus du tout le cas, mais où il y a, et pour certaines catégories des gens qui ont plusieurs passeports, qui peuvent voyager beaucoup plus facilement, il y a aussi des questions de classe et de gens qu'on peut poser pour comprendre ces concepts. En tous les cas, il y a ces contradictions. Donc, le transnational nous a, à mon avis, aidé à repenser certains faits historiques du passé, de remettre en avant certains allers-retours qui existaient depuis longtemps. En même temps, il faut comprendre le contexte dans lequel il est utilisé, de poser la question de sa pérennité dans un monde où les frontières sont de retour d'une manière vraiment très visible et très pour tout le monde, puisque même les gens avec plusieurs passeports. Bon, il y a des files maintenant séparées dans les aéroports, mais pour beaucoup de gens, la plupart des voyageurs, ça reste quand même, les frontières sont devenues de nouveau quelque chose qui, le transnationalisme, a un peu de mal quand même à dépasser, à mon avis. Merci.